minimum, qu'il est soumis à une intense évaporation et qu'il est alimenté principalement par le Chari et le Logone, qui sont deux fleuves tropicaux avec des crues très irrégulières qui dépendent des pluies reçues sur l'amont du bassin, donc au sud du lac Tchad. Oui. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de rétrécissement progressif du lac Tchad. Le lac Tchad, si on considère un siècle, a eu différentes tailles. Dans les décennies 50-60, par exemple, on avait un grand lac Tchad avec entre 20 000 et 25 000 km² d'eau. C'est souvent cette situation qui est utilisée comme point de référence par rapport à la situation actuelle, mais il faut savoir que ce sont les deux décennies les plus humides de tout le XXe siècle.
Oui.
Ensuite, pendant les décennies 70-80, le lac Tchad est à un petit niveau, il y a des sécheresses au Sahel, le lac Tchad se réduit très fortement jusqu'à atteindre 1500-2000 km² en eau.
Oui.
Et puis, depuis 1991, il y a une période, je dirais, intermédiaire, qui est une période moyenne à l'échelle du XXe siècle, où on voit le lac Tchad être alimenté. Alors, tous les ans, la cuvette, dans ce nouveau lac Tchad, si vous voulez, il y a deux cuvettes, alors que dans la situation de grand lac Tchad, il y avait un seul plan d'eau d'un seul tenant. Il y a maintenant deux cuvettes. Quand l'eau arrive dans la cuvette sud, par le Chari et le Logone,
oui,
si l'inondation est suffisante, elle passe une zone de haut fond qu'on appelle la Grande Barrière et elle inonde la cuvette nord dans des proportions variables suivant les années.
D'accord.
Depuis 1990,
Jérôme Magrin, je m'excuse. Alors, en d'autres mots, est-ce que vous êtes en train de dire que la commission du bassin du lac Tchad est en train d'exagérer? Donc, de dire que le lac Tchad est au bord de l'assèchement, est-ce une supercherie, une manipulation de la communauté internationale en vue d'obtenir des milliards de dollars et renforcer le pouvoir des dirigeants de la région sur fond de changement climatique et d'attaque djihadiste?
Je n'utiliserai pas des mots aussi forts que ceux que vous utilisez, mais c'est une manière de présenter
quand même,
effectivement, à dramatiser la situation, ouais, pour essayer d'obtenir des financements internationaux dont, cela dit, cette région a grand besoin.
Ouais.
Il faut dire, simplement, par rapport à cette question de l'assèchement du lac Tchad, aujourd'hui, le lac Tchad n'est pas menacé à très court terme d'assèchement. Il présente même une situation, du point de vue environnemental, hydrologique, qui est peut-être optimal pour les populations qui vivent sur les rives du lac Tchad. C'est à peu près 2 millions de personnes qui vivent sur les îles et les rives du lac Tchad. Mmh. Cependant, si on regarde les effets potentiels du changement, oui, climatique et surtout de la croissance de la population dans le bassin du lac Tchad qui est attendu. Aujourd'hui, le bassin du lac Tchad, c'est à peu près 50 millions d'habitants.
On va revenir sur cet aspect d'ailleurs tout à l'heure. Alors, pour l'ONU, cette région connaît l'une des plus graves crises humanitaires de la planète. Christian Senebo, vous qui avez longuement vécu cette immense région, a-t-elle connu des bouleversements dramatiques ces dernières années?
Bien, ce qui est le plus dramatique, bien sûr, c'est l'arrivée donc de Boko Haram. Autrement, avant, il y a toujours eu ce lac n'a jamais été vraiment contrôlé par les États, n'a jamais à l'époque coloniale n'a pas non plus été contrôlé par l'administration coloniale. C'est quand même ça a toujours été une zone de non-droit où on a des cartes qui sont extrêmement, comme l'évoquait Jérôme Magrin, avec une bathymétrie qui change sans arrêt. On n'a jamais eu des cartes très précises. On a des toponymies qui voyagent. On n'arrive pas, quand on traverse le lac, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va réussir, à quel moment passer telle passe et à prévoir son cheminement sur le lac. Donc c'est quelque chose qui a été toujours une zone refuge pour des irréguliers, même à l'époque, sous Hissène Habré en 90, dans les soubresauts guerriers du Tchad, les gens qui étaient les gens d'Hissène Habré se sont retirés sur la cuvette d'or. Ensuite, on a eu également des irréguliers qui se sont réfugiés également dans les îles au nord de Darak, dans les îles camerounaises. Donc on a toujours eu des irréguliers,
oui,
jusqu'à ce que arrivent maintenant des bandes armées qui ont fait du lac Tchad leur sanctuaire. Il s'agit de Boko Haram.
D'accord. Et quand on dit qu'il y a des petits agriculteurs et pêcheurs qui rejoignent le groupe Boko Haram, par exemple, ou des milices peut-être qui combattent les combattants de Boko Haram, alors est-ce que c'est parce que c'est au fur et à mesure de la disparition du lac et du manque de nourriture que cela entraîne, brièvement ?
Non, pas du tout. Moi, j'abonde dans le sens qui vient d'être
c'est
dit.
C'est ce que d'autres observateurs disent, en tout cas.
Oui, non, j'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que on avait une forme de ressources sur le lac qui plaisait aux populations. Bon, les insécurités ont fait qu'il y a eu une dramatisation des choses sur le lac, mais les gens ne demandaient pas mieux que d'utiliser cette eau du lac qui se retirait après qu'il y ait eu une inondation, qui se retirait sur des kilomètres de long et sur lequel les éleveurs pouvaient poursuivre et avoir des pâturages extrêmement intéressants, lacustres, et également les cultivateurs se jetaient là. Donc c'était en fait une zone qui était plutôt riche quand Boko Haram s'est mis là-dessus. C'était pas dans un milieu où on avait, comme très souvent on veut le dire, une déréliction au point de vue économique. Maintenant, quand vous avez une bande armée qui arrive comme Boko Haram, pardon.
D'accord.
Boko Haram se trouve être le révélateur de tous les conflits, de toutes les haines de voisinage rentrées entre les communautés, les villages, les lignages. Chacun veut saisir l'opportunité en s'alliant avec Boko Haram pour régler pour régler ses problèmes. Dans le cas du lac Tchad, les populations qui sont les autochtones qui sont au cœur du lac, les Boudouma essaient d'empêcher à ce moment-là, en s'alliant avec Boko Haram, que les populations des rives entrent dans le lac. En revanche, les populations des rives, comme les éleveurs Peul, voudraient bien profiter des pâturages du lac en période de décrue et voudraient s'allier avec Boko Haram. Vous voyez, donc, il y a des opportunités qui sont là et Boko Haram a géré en fait des alliés potentiels, mais qui sont quelquefois des alliés incompatibles.
Mathilde Bouillet, nous venons de l'entendre, c'est une crise à multiples facettes, mais il y a un aspect que j'aurais aimé aborder avec vous. Est-ce que la crise, est-ce qu'elle est aggravée également par une très mauvaise gestion des ressources hydrauliques par les pouvoirs publics de la région, peut-être même de la mauvaise gouvernance?
Oui, alors sans parler nécessairement de mauvaise gouvernance, il y a un problème de capacité qui est manifeste, et il y a un manque de données très important. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de politique de régulation de l'utilisation de l'eau. Il n'y a pas non plus de mécanisme en place pour gérer les conflits d'usage que vient d'évoquer l'autre expert entre les pêcheurs et les agriculteurs. La commission du bassin du lac Tchad manque de capacité en la matière. Il y a un projet qui vient d'être développé avec le programme des Nations Unies pour l'environnement pour mettre en place une législation transfrontalière, donc valable dans les quatre États autour du lac, pour utiliser l'eau et conserver, protéger les ressources naturelles. Il y a eu effectivement des projets d'infrastructure un peu malheureux, en tout cas conçus sans concertation avec les autres États. Par exemple, deux barrages ont été construits sur la rivière du Kama Oudouyobé, qui est un affluent du lac, qui contribue à 10% seulement du lac, mais c'est quand même pas négligeable. Et ces deux barrages-là ont diminué la contribution de la rivière de 7 km cubes à 0,45 km cubes depuis les dernières années. Donc il y a effectivement un problème de planification et de coordination important. Et enfin, il y a un manque de données qui a été évoqué par les autres experts, de données liées à des systèmes d'observation hydroclimatologiques qui ont périclité, qui ont été mis en place lors de l'époque coloniale, entretenus jusque dans les années 80, mais qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc le fleuve Tchari qui a été évoqué, qui contribue à 90% au lac, aujourd'hui n'est plus jaugé depuis bien longtemps. Donc on est face à un défi de gouvernance important aussi parce qu'on n'arrive pas à avoir des données qui permettent d'estimer les variations de cette ressource en eau. Et les experts précédents ont bien expliqué que c'est un lac qui varie considérablement en quantité d'eau. Donc il y a un projet de l'Organisation météorologique mondiale pour réhabiliter ce système d'observation.
Abdoulaye Ndiaye, vous travaillez sur le dossier depuis pas mal d'années et vous avez suivi tous les points qui ont été évoqués. Alors d'après vous, quels sont les véritables enjeux liés au lac Tchad?
Oui, merci. Désolé, du fait d'une mauvaise connexion,
oui,
j'ai pas vraiment
problème, oui.
pu suivre l'essentiel de ce qui a été dit. Mais j'ai attendu un peu les dernières 2-3 minutes. Et oui, je vais surtout insister sur le fait qu'effectivement, le grand problème du bassin du lac Tchad, il est commun à pratiquement tous les autres bassins du monde, et notamment en Afrique. J'ai dit cela basé sur mon expérience quand j'ai travaillé pour le programme des Nations Unies pour le développement. Mm-hmm. J'avais dans mon portefeuille un projet pour le bassin du fleuve Sénégal, fleuve Niger, le lac Tchad, lac Tanganyika et le courant marin de Guinée qui va de la Guinée-Bissau jusqu'en Angola. Mm-hmm. Et partout, le problème se résume essentiellement à deux grandes contraintes. La première, c'est une gestion pas des meilleures dû au fait que les différents utilisateurs de la ressource qu'ils ont en commun sont en compétition et ne se concertent pas. Et ceci parce que évoluons aussi dans un contexte institutionnel avec des capacités limitées à tous les points de vue, politiques, stratégiques, techniques, sociales, etc. De façon concrète, comme disait la collègue tout à l'heure, il s'agit essentiellement de s'arranger à identifier toutes les parties prenantes, en allant du gouvernement central, le gouvernement local, les chefs religieux, l'agriculteur, le pêcheur, l'éleveur, etc., ceux qui sont intéressés à faire des barrages pour produire de l'électricité ou la navigation, d'amener tous ces gens autour d'une table pour d'abord qu'ensemble, à travers un processus, ils analysent quels sont les problèmes ou quels sont les principaux problèmes qui provoquent une dégradation de l'environnement, liée en partie aux facteurs endogènes, c'est-à-dire donc l'action de l'homme, mais aussi exacerbée par les changements climatiques.
Oui.
C'est ce que l'on appelle dans d'autres jargons en hydrologie le diagnostic analytique transfrontalier. Ensuite, basé sur cela, préparer un plan d'action stratégique. Quand je travaillais pour le PNUD, à travers le PNUD, le fonds...
Abdelhamdi, vous me tendez la perche parce que c'est un aspect que je voudrais bien aborder dans la deuxième partie. Quel avenir donc pour le lac Tchad ? Des éléments de réponse dans la deuxième partie de Washington Forum. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique.
30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel.
Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum, consacré au lac Tchad. Des dirigeants africains se sont réunis cette semaine à Abuja, la capitale nigériane, pour discuter du sauvetage du lac Tchad, pour reprendre leurs propres mots. Alors, des commentaires Facebook avant de retrouver nos invités. Ousmane Awat Abdoulaye, N'Djamena Tchad. Oui, le lac Tchad est vraiment en danger, je l'ai vu de près. Le problème n'est pas seulement l'eau, mais les rives sont gagnées par le natron qui contient un fort taux de sel. Aucune culture ne peut pousser dans les parties touchées. René Xavier Mpinda Mbouibayi, RD Congo. Nous sommes pour une solution durable au dessèchement du lac Tchad, mais cette solution ne doit pas être à l'origine de nouveaux problèmes graves. Le peuple congolais doit se prononcer par référendum pour ce cas qui représente en effet une cession d'une partie du territoire congolais. Yao Marcelin Kofi, Abidjan, Côte d'Ivoire. La sécheresse aiguë qui frappe le lac Tchad a occasionné la migration des populations riveraines vers d'autres régions car fuyant la famine et les rapes et attaques du groupe terroriste Boko Haram. Et Jersey Mpazou Fumu, Kinshasa, on ne doit pas défier la nature. Nous devons réfléchir sérieusement sur l'impact environnemental, écologique et économique de ce projet transaqua dans la région du bassin du Congo. La RD Congo a déjà assez de problèmes, alors il faudra ne pas en créer d'autres. D'ailleurs, nous allons en parler avec nos invités. Et alors, je vais m'adresser immédiatement à notre invité qui se trouve en France, Jérôme Agrin. Alors, le projet... Transaqua trop ambitieux, trop compliqué, trop coûteux? Que pensez-vous de ce projet? Y a-t-il des alternatives?
Que ce projet a un grand mérite, c'est de poser une question essentielle qui est de l'adéquation entre les besoins humains et les ressources en eau et les possibilités de les exploiter et d'exploiter les terres qui y sont liées. En revanche, ce grand projet a un inconvénient et il soulève aussi beaucoup d'incertitudes. L'inconvénient majeur, c'est que quand on se met à discuter de ce projet, on oublie d'envisager toute autre possibilité. On est obnubilé par ce grand projet selon une logique qui a déjà été observée ailleurs, hein, qui fait qu'il y a une fascination exercée par les grands projets, qui fait qu'on n'arrive plus à penser autrement. Ils monopolisent l'attention. Le véritable enjeu, c'est qu'on a une population qui va passer dans le bassin d'à peu près 50 millions d'habitants aujourd'hui à 130 millions d'ici 2050. À l'heure actuelle, les prélèvements opérés par les activités humaines qui n'arrivent pas au lac Tchad sont relativement limités. On les estime à peu près à 3 km3 sur 18 à 20 km3 d'apport annuel du Chari-Logone. Mais si la population augmente, comme je vous l'ai indiqué, et que la consommation en eau par habitant augmente parce que l'on développe l'irrigation, notamment pour répondre à l'irrégularité de la pluie qui sera associée au changement climatique, eh bien dans ces cas-là, il se pourrait que les apports au lac Tchad diminuent dans une large proportion et que donc le lac Tchad effectivement soit menacé. Alors ce n'est pas aujourd'hui, mais ça peut être dans 20 ans, 30 ans. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu véritable. Mais le transfert n'est pas la seule façon de répondre à cet enjeu. Il y a d'autres manières d'envisager la valorisation des ressources en eau, en utilisant des eaux souterraines, en utilisant des systèmes d'irrigation qui soient plus économes que les systèmes gravitaires actuels. Il y a d'autres options qu'on pourrait envisager. Pourquoi j'attire l'attention sur l'importance de raisonner de façon
Allez-y rapidement, s'il vous plaît, Jérôme Agrin.
Oui, la question de ce transfert, c'est qu'en fait, il y a énormément de risques, comme les auditeurs congolais qui sont intervenus l'ont mentionné. D'abord, la position du Congo par rapport à ce transfert n'est pas du tout évidente. Les pays émetteurs ne seront peut-être pas d'accord. La question des ressources naturelles utilisées par des acteurs extérieurs est très sensible dans un pays comme la République démocratique du Congo. Il n'est pas du tout évident que aussi bien les décideurs politiques que la population soient décidés à laisser faire ce transfert. Et puis, ce transfert pose un très grand nombre de questions quant à ses impacts environnementaux, quant à ses impacts sociaux, quant à sa viabilité économique. Pour l'instant, on parle de 14 000
Jérôme Agrin, Abdoulaye Ndiaye, il y a quand même pas mal d'espoirs qui apparemment sont permis, hein. Du moins, c'est ce qui ressort de cette conférence de 3 jours à Abuja. Que pensez-vous de ce projet Transaqua? Il y a évidemment la RD Congo qui doit donner son accord. Pensez-vous que c'est réalisable maintenant qu'il y a l'arrivée d'un partenariat chinois? Qu'en pensez-vous? Non, nous n'avons plus Abdoulaye Ndiaye. Je vais m'adresser à vous, Mathilde. Qu'en pensez-vous de ce projet?
Oui, alors ce projet nourrit beaucoup d'espoir. C'est une priorité première du président Bahari nigérian. Il y a un consensus des 4 États des rives Tchad et même au-delà de l'ensemble du bassin pour le construire. Il soulève quelques questions parce qu'on on a des difficultés à évaluer l'impact environnemental. Donc l'étude de faisabilité est prévue pour cette année. Il y a également des enjeux agricoles derrière, puisque les barrages qui vont être construits donc vont générer de l'électricité, vont permettre d'irriguer entre 50 000 et 70 000 km² de terre, mais vont aussi re-inonder les terres très fertiles qui avaient été dégagées par le rétrécissement du lac. Donc il y a un enjeu de relocalisation des populations agricoles qui ont tiré bénéfice en fait de cette réduction du lac. Donc ça implique des études très approfondies et une gestion des risques environnementaux et sociaux très solide.
Christian Seignobo, il y a ce projet, vous connaissez bien la région et qu'en pensez-vous de ce projet? Est-ce que cela verra le jour? Non. On a quelques pépins techniques, il n'y a pas de problème. Alors, Mathilde Bouillet, comment pouvoir aux besoins d'une population qui pourrait atteindre 130 millions en 2050? En ce moment, peut-être, on est en train de parler de 50 millions. Évidemment, il y a ce problème de changement climatique et donc des ressources en eau qui vont être de plus en plus incertaines. C'est la question que tout le monde se pose. Comment pouvoir à leurs besoins.
Et a fortiori, à l'aune de ce qui s'est passé l'année dernière, puisque c'est plus de 10 millions de personnes qui ont été dans une détresse extrême. 500 000 enfants qui se sont retrouvés dans une situation de sous-nutrition aiguë. Donc, effectivement, le changement climatique va aggraver les sécheresses, générer des vents violents qui vont contribuer à l'érosion des sols, à l'avancée des dunes. Donc, il y a une variation de la pluviométrie qui est annoncée. Donc, on pourrait avoir davantage d'eau sur le bassin, mais c'est encore, comme je le disais tout à l'heure, assez difficile à calculer parce qu'on manque de données. Mais il faut s'y préparer. Donc, le principal enjeu, c'est de développer une agriculture qui est résiliente au changement climatique. Donc, de passer d'une irrigation par submersion à une irrigation goutte à goutte, avoir des semences qui sont résistantes au changement climatique. Il y a un programme qui a été lancé par la commission du bassin et l'ensemble des bailleurs pour renforcer la résilience au changement climatique, qui va se développer une première phase d'ici 2020, seconde phase d'ici 2025. C'est une priorité pour la région et la communauté internationale. Et ça implique aussi de gérer des conflits d'usage avec les pêcheurs, puisque l'usage des pesticides contribue à diminuer les ressources des poissons. Il y a également des projets inquiétants d'exploration d'hydrocarbures. Il y a des puits qui vont être forés cette année. Donc ça implique une gestion intelligente des différents usages du lac et un système d'alerte précoce, enfin, pour pouvoir anticiper les sécheresses.
Voilà. Christian Seignobo, je crois que vous êtes de retour maintenant. Alors, même le Conseil de sécurité de l'ONU est d'avis que cette crise au lac Tchad est largement ignorée par la diplomatie mondiale et le Conseil qui veut se pencher sur la question. Est-il donc urgent pour la communauté internationale de prendre des mesures fortes pour la résoudre?
Ça, je ne peux pas me prononcer. Pour ça, on a un repli.
Qu'en pensez-vous Partagez votre
opinion. Ce que j'entends, c'est que pour l'instant, le repli sur le sanctuaire que représente le lac Tchad, on ne voit pas comment, pour l'instant, militairement, on pourrait se débarrasser de la secte de Boko Haram et des 3000 hommes de Boko Haram qui sont sur le lac Tchad. Le Tchad lui-même a positionné des forces sur la Grande Barrière, qui est une zone qui c'est un haut fond entre les deux cuvettes, mais les autres États ne font que des incursions dans le lac et ne restent pas. Donc là, il y a un véritable problème de durée. Que va-t-il se passer? Combien de temps peuvent-ils rester dans cet écosystème si particulier, dans ces milliers d'îles et de d'îlots que l'on peut avoir au milieu de ce patchwork de marée? Parce que en fait, la vraie affaire du lac depuis le début où nous abordons ce sujet-là, c'est que c'est pas la mer d'Aral, qui est quand même l'image que l'on donne pour dire on peut arriver à renflouer le lac Tchad, regarder la mer d'Aral, ce qu'on a pu faire. C'est quand même depuis toujours un immense marais, et si on le sature en eau, ça n'aura plus de sens parce qu'on ne pourra plus l'utiliser. Moi, ce qui me gêne, c'est ce côté, si vous voulez, très volontariste. On a l'impression qu'on revient dans les années 1960 avec les grands projets technologiques, la productivité, etc., avec en plus l'argument d'urgence, il faut faire vite, la démographie est galopante, et sans qu'on réalise et qu'on réfléchisse vraiment, comme si on allait se satisfaire
Tout le monde est d'accord, il faudra faire quelque chose pour sauver ce lac africain, ce trésor africain. Voilà, c'est ici que nous allons clore Washington Forum. Un grand merci à nos invités et à toute l'équipe de VOA Afrique. Un petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue nos confrères de Radio TV Ténéré au Niger. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.